Pour le moment, je discute avec Gilles Lefebvre. Il est conseiller en surdicécité, programme surdicécité du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre Sud de l'île de Montréal, ou si on veut faire un peu plus rapide, c'est l'Institut Raymond Demoire. Gilles Lefebvre, bonjour.
Bonjour, madame.
Donc, un nouveau guide pratique s'est sorti la semaine dernière. Ça s'appelle « Vivre au quotidien avec un enfant sourd et aveugle ». Premièrement, Monsieur Lefebvre, je me disais, bon, ce guide-là, il est très bien fait parce qu'il est parsemé de témoignages de parents qui vivent cette réalité-là. Et d'entrée de jeu, on se dit, recevoir un diagnostic, savoir que notre enfant vit non seulement avec un problème, une déficience auditive, mais également visuelle, c'est une charge d'émotions immense. Comment on peut expliquer les causes de la surdicécité?
Ah, mon Dieu! Il y a plus de 150 causes à la surdicécité. Mais je pense que d'abord, il faudrait parler des sortes de surdicécité. Mm-hmm. Il y a la surdicécité acquise. Alors, il s'agit de personnes qui, au cours de leur vie, deviennent sourdes-aveugles. Okay? Alors, ces gens-là ont atteint un certain niveau d'autonomie, une connaissance de leur environnement, ils savent qu'on peut communiquer, puis ils vont devoir s'adapter à leurs nouvelles conditions. Parce que les personnes sourdes-aveugles, on parle de surdicécité congénitale, là, c'est tout à fait autre chose. Parce que un enfant qui naît sourd-aveugle, il ne pourra pas découvrir son environnement par lui-même, comme un enfant entendant-voyant va être capable de le faire. Alors, tout va être montré à ces enfants-là.
Oui.
Alors, pour les parents, ça demande beaucoup.
Oui, surtout, et comme c'est le cas d'un couple de parents, lorsque c'est le premier enfant, on apprend à être parent et on apprend à être parent d'un enfant qui vit avec une déficience et auditive et visuelle. Ça peut faire beaucoup au départ. Ce sont des enfants, comme vous le mentionnez, Gilles Lefebvre, qui ont du mal à entrer en contact ou à découvrir leur environnement. Donc, ça crée des caractéristiques assez particulières chez ces enfants.
Bien sûr, il faut dire au départ que les débuts de vie de ces enfants-là, ça commence par de nombreuses hospitalisations et puis de la souffrance physique, hein, dès la période là, néonatale. Mmh. Et leur perception du monde, elle est morcelée. C'est difficile pour ces enfants-là de donner un sens à ce qui se passe autour d'eux. La plupart des stimuli, à cause là, des nombreuses hospitalisations, puis des traitements médicaux et tout ça, pour ces enfants-là, ce qui est extérieur à leur corps, ça devient comme quelque chose de menaçant et d'agressant.
Ouais.
Alors, ça va demander là, vraiment une approche particulière qui tient compte, entre autres, de ça, pour amener l'enfant à se développer, pour arriver d'abord à créer un lien avec l'enfant et puis l'amener à se développer éventuellement. Mmh.
Parlons-en de ce lien-là. Comment se crée l'attachement d'un parent avec son enfant qui vit avec une surdicécité?
Créer un lien de confiance là, avec un enfant sourd-aveugle, c'est sûr que c'est essentiel. Et puis, c'est avec l'approche particulière qu'on va utiliser avec l'enfant sourd-aveugle qu'éventuellement va se développer ce lien-là. Mmh. Un enfant sourd-aveugle ne peut pas anticiper ce qui vient. Okay? Alors, il ne peut pas anticiper qu'il va être touché, par exemple, mmh. ou qu'on va lui mettre un biberon dans la bouche. Alors, dans notre approche, il va falloir trouver une façon de permettre à l'enfant d'anticiper qu'on entre en contact avec lui. Et c'est par la répétition de cette façon d'agir là que éventuellement l'enfant va comprendre. Il va comprendre les moyens qu'on utilise pour lui permettre d'anticiper. Et c'est comme ça que le lien de confiance va finir par se développer. Mais ça peut être long.
Oui. Vous parlez dans ce guide, Gilles Lefebvre, mm-hmm. de coaction. C'est quoi la coaction?
OK. Un enfant qui voit, vite, il va développer là, une capacité d'imitation. Hein? Il va observer ce qui se passe autour de lui, puis il va essayer de faire la même chose. L'enfant sourd aveugle ne peut pas imiter parce que il est limité par sa déficience visuelle. Alors, disons, c'est une approche qui va nous, disons, en agissant avec l'enfant. C'est comme ça qu'on va lui inculquer petit à petit les gestes nécessaires pour toutes les actions là, de la vie quotidienne.
Ouais.
Okay? Alors, en gros, la coaction, là, c'est ça.
Bon, on a parlé du développement du lien d'attachement. Il y a aussi tout le développement du langage, la communication, comment un parent d'un enfant sourd et aveugle peut y arriver.
C'est une grosse question. c'est qu'il va falloir d'abord, mais comme je vous le disais, là, il faut trouver des moyens de faire anticiper l'enfant, lui faire comprendre, oui. lui annoncer ce qui s'en vient. Et il faut l'installer dans une routine quotidienne. Okay? Et le faire participer activement à cette routine quotidienne-là, justement, entre autres, par la coaction. Alors, en participant activement à sa routine quotidienne, ben l'enfant va développer une compréhension de ce qui se passe autour de lui et éventuellement, il va reconnaître des objets, il va reconnaître des instants de vie et petit à petit, soit que ce soit en parole ou en geste, en signe ou par l'utilisation d'objets en lien avec la routine quotidienne, mais c'est comme ça que l'enfant va finir par comment dire ça, que sa communication petit à petit peut se développer.
Ouais.
Mais ça peut être très long.
Ouais. Vous parlez dans le guide Gilles Lefebvre de routine, comme vous venez de le mentionner. Mm-hmm. Il y a cet exemple très concret de l'heure du bain, par exemple, où avant de plonger l'enfant dans l'eau, ça peut être bien de lui faire respirer l'huile moussante qu'on mettra dans le bain, de lui faire toucher l'eau avant. Donc, il y a vraiment aussi des étapes.
Bien, c'est ça. Non, si on prend justement là, cette activité-là, bien, on peut l'annoncer à l'enfant, on peut le lui dire, parce qu'on ne sait pas ce que l'enfant fait de la parole qu'il peut percevoir partiellement. On peut lui faire le signe ou le geste qui correspond à aller prendre son bain aussi, mais on peut lui faire toucher d'abord, par exemple, comme sa débarbouillette.
Ouais.
Alors, peut-être une débarbouillette sur laquelle il y a un petit peu de savon. Alors, il va sentir l'odeur du savon. Puis, en touchant la débarbouillette, après la répétition, hein, après avoir fait ça plusieurs fois avec lui, il va comprendre que, on me fait toucher la débarbouillette qui sent quelque chose. C'est parce qu'on va aller me mettre dans quelque chose où ça va être chaud et tout ça.
Mm-hmm.
OK?
Mm-hmm.
Alors, c'est une façon, là, de... comment dire ça?
Ben de sécuriser aussi, j'imagine, l'enfant dans cette routine.
Oui. Ben de lui faire anticiper.
Oui.
Je reviens souvent à l'anticipation, mais c'est...
c'est un chapitre complet de votre guide, d'ailleurs.
Oui, mais constamment, nous autres, parce qu'on voit bien et qu'on entend bien, on anticipe constamment. C'est ce qui nous permet de fonctionner de façon autonome, de se sentir confortable, en sécurité. Mais un enfant qui ne peut pas anticiper, si l'on ne trouve pas les moyens pour le faire anticiper, mais il va passer son temps à sursauter.
Oui.
Vous voyez? Alors, c'est très important, là, le principe de l'anticipation.
Oui. Depuis tout à l'heure, Gilles Lefebvre, ça fait des années que vous travaillez auprès de ces familles, une quarantaine d'années à peu près, je pense, du côté de Raymond Dewan.
Ça va faire 49 ans.
Oui. Vous en avez vu des familles qui vivent avec un enfant sourd et aveugle. Depuis tout à l'heure, vous parlez de « ça peut être long ». Ça peut être long. Est-ce que le principal besoin de ces familles, c'est la patience? Quel message vous donneriez à ces familles?
Mais je pense que c'est des familles qui ont besoin du soutien d'intervenants, là, qui, eux, connaissent plusieurs enfants sourds aveugles. Mais le parent, c'est toujours la personne la plus importante pour l'enfant. Et puis, c'est toujours la personne qui connaît le mieux son enfant.
Mm-hmm. Oui. Le guide...
Attendez.
Oui.
Excusez-moi. Mais sauf, comme vous le disiez tantôt, il n'y a pas d'école pour devenir un parent. Hein? C'est à force de côtoyer les enfants qu'on comprend notre rôle de parent. Mais quand on a un enfant sourd-aveugle, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Alors, avant de comprendre les impacts de la sourdité sur le développement de notre enfant, tu sais, ça peut être très déroutant.
Et avant aussi d'apprendre à prendre contact avec cet enfant-là, il est quand même privé, si je peux m'exprimer ainsi, de deux sens quand même assez importants, c'est-à-dire la vue, l'ouïe. Il faut créer ce contact-là, ce lien-là qui est assez privilégié avec notre enfant d'abord. Oui.
Mais c'est comme je vous disais tantôt, là, notre approche, comment entrer en contact avec cet enfant-là, mais c'est en respectant son besoin d'anticipation.
Oui.
Okay? Puis par la répétition des actes de la vie quotidienne, là, mais c'est comme ça que, comment dire ça, qu'on va amener l'enfant à comprendre qu'est-ce qui se passe autour de lui. Mais sauf que, comment dire ça, au départ, un parent qui devient parent d'un enfant sourd-aveugle, ce n'est pas des notions qu'ils connaissent. Hein.
Oui.
Alors, c'est pour ça que nous, ça fait partie de notre travail de sensibiliser les parents à cette chose-là.
À leur rôle. Vivre au quotidien avec un enfant sourd et aveugle, comment on peut se procurer ou avoir accès à ce guide?
Il est disponible au comptoir à l'Institut Nazareth et Libraire à Longueuil.
OK, parfait. Donc, on glissera, nous, de notre côté, ce lien. J'ai le fait, vous êtes conseiller en sourdité cécité du côté de Raymond Dehoire, raymond-dehoire.qc.ca. Merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
Au revoir.
Au revoir.